Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Le 28 janvier 1915. Hier ou avant-hier au rapport, on a lu des lettres de prisonniers Bosch. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous, les Bosch. Ils sont comme nous et le malheur est pareil pour tous.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Tuer un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. Nous on y allait au couteau, on y voyait de blanc de l'œil aux frères et on crevait. Et on se les tapait, nous, à peut-être 3000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné cette putain de guerre, nous, des 3000.
L'armée française, avec l'aide de ses alliés, à consommer la défaite de l'ennemi.
En attendant, nous sommes dans un pays ami, allié. Alors pas de provocation, pas de rixe, pas de beuverie et pas de pillage.
Mais enfin, si ça les gratte tellement qu'on touche à leur mouquère, fallait pas nous appeler au secours. Maintenant, je suis là, elles sont là, je me sers. Et si elle est morte ? L'artilleur flanchera, il les dénoncera, j'aurai des preuves. Les gars, je leur ai appris à pas se faire tuer, à pas se faire baiser par le premier couillon venu dans ton genre. Ils ont déconné, tu le sais, ils doivent payer.
Mais mes gars, que j'ai pour la plupart choisi en tôle, chez les préventionnaires. Ce qu'ils ont fait, et les endroits où ils sont allés le faire, j'en connais pas beaucoup qui les auraient suivis. Pas beaucoup.
Est-ce que tu préfères tes voyous, hein? Ce qui est à toi est à moi, plus de toi, plus de moi.
Les gars, c'est pas des soldats, c'est des guerriers. Tu leur as crié depuis 14, bien tué, bien zigouillé, continue, tu m'intéresses. Maintenant que t'en as plus besoin pour te planquer derrière, t'as toute une ménagerie de pantins qui se donne des droits, là. Deviens pas flic, Norbert. Deviens pas flic.
Craon, la chanson de Craon, une chanson longtemps, très longtemps interdite, évidemment interdite en 14. Cette chanson fut celle de la des mutineries, fut celle de l'insoumission des soldats après l'offensive Nivelle du 16 avril 1916, une des plus grosses imbécilités de l'histoire militaire, de l'histoire de notre pays, et à l'intérieur d'une guerre qui fut une des probablement des plus effroyables aventures de l'histoire des hommes.
Témoignage du docteur Léon Barros. Les premiers blessés sont apportés. Il en arrive de toutes parts. Tout est occupé, jusqu'au moindre recoin. C'est l'engouffrement par toutes les ouvertures, par toutes les fissures de ces pauvres poilus qui tombent dans nos bras, hébétés, hagards. Les yeux fichés par l'horreur de ce qu'ils ont vu, et les traits contractés par la douleur et les troubles, souffrances surhumaines qu'ils éprouvent. L'un, entre autres, est dans un état pitoyable de prostration et d'anéantissement, sentant l'urine et les matières fécales, et dégageant une odeur de cadavre. Ce pauvre diable, blessé par les éclats d'obus qui lui ont broyé la cuisse, est resté pendant 2 jours à moitié enfoui dans le trou que l'obus meurtrier avait creusé contre le cadavre d'un de ses camarades, tué à côté de lui. J'ai vu là des soldats couverts d'une telle quantité de poux que les différentes parties des pansements en étaient envahies jusqu'aux plaies. C'était une vraie boucherie, pleine de sang et de râles. Près d'une bougie, l'aumônier, les mains pleines de sang, n'arrête pas de penser les blessures. Je dors debout, du moins je somnole. Je vis comme un automate. Mon blessé pousse des cris horribles, et d'autres encore alignés le long du mur, prêts à être évacués, hurlent comme des forcenés. Les cris de souffrance nous masquent une canonnade formidable. Les morts sont entassés pêle-mêle les uns sur les autres comme des choses devenues sans intérêt. Puis allongés par terre, côte à côte et soigneusement ensevelis dans leur linceul, les pieds joints, les mains croisées sur la poitrine, quand ils possèdent encore des mains et des pieds.
Parce qu'il faut dire quand même que le chemin des dames, on n'en parle pas beaucoup. Parce que c'était une erreur colossale politique et militaire. Le 16 avril 17, en 10 jours de temps ou 12 jours de temps, on a eu entre 150 et 180 000 morts et disparus. Vous voyez,
français du côté français.
Du côté français, je parle. En 10 jours de temps. Sur une crête de 20 km, il y a eu 1 300 000 hommes de rassemblés pour mener l'attaque, si vous voulez. Donc la décision a été prise par des militaires français, par des politiques français. Donc on a rassemblé 1 300 000 hommes pour les envoyer à la boucherie volontairement. On le savait très bien. Ici, c'était une position offensive, alors on savait très bien qu'on ne pouvait pas la prendre. On ne pouvait pas la prendre. C'était impossible. Les Allemands étaient sous terre, étaient à l'abri, totalement à l'abri. Voilà. Donc, même les 400 obus en 4 ans qui sont tombés au mètre carré ici. Mais
400 obus
au mètre carré, d'après les statistiques, sont tombés ici. C'est le point le plus fort avec Verdun de la guerre 14-18 et de la Somme, si vous voulez. Mais Crâne, on n'en parle pas. Vous voyez, 3/4 des livres ont été interdits hein, sur cette période-là et sur ce site-là. Ben, ils sont encore interdits. Hein. La chanson Crâne a été interdite jusqu'en 74. Je crois que c'est Giscard d'Estaing en 74 qui a levé l'interdiction de la chanson Crâne.
Mais non, c'est pas possible. Oui.
C'est une tombe très très modeste, hein. C'est quelque...
ce qu'il voulait.
Et c'est vous qui mettez le géranium?
C'est quelques amis. C'est quelques années.
Yves Gibault, écrivain, 1915-1994.
Oui. Moi, je viens seulement pour me recueillir, pour retirer les pommes de pin, pour... Quand j'ai une bête qui se sauve et puis qui vient lui marcher sur sa tombe, j'ai pas honte de le dire. Et lui, je crois qu'il en est fier. Je viens boucher les pommes malgré tout, parce que ça arrive, on peut pas raisonner les bêtes. Hein, ils sont... Donc ça arrive qu'il y ait une bête qui se sauve, qui vienne le voir. Alors je lui dis, tiens, tu vois, il vient de saluer aussi, quoi. Oui, vous savez, il est bien, là. Il est bien. Le soleil levant, vous voyez. Le soleil levant. Face à la plaine de Champagne.
C'est ce qu'il voulait, ça ?
Ah oui, 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 c'est... Ouais. Il n'aime pas. On va se taire deux minutes. Ici, c'est une drôle de solitude. Hein. Il y a encore plein d'hommes en dessous, hein. Il y a encore plein d'hommes partout. Quoi. On n'est jamais tout seul ici. Pas seulement par le fait de la nature, mais si on a un petit peu d'attache avec son histoire. Avec...
Vous retrouvez des corps, des...
Oui, oui, oui.
Ah oui,
oui. Ah oui, encore, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, j'en ai encore retrouvé un. Mais on ne peut plus les... Puis, de toute façon, ce n'est pas dans mon esprit. Ils restent où ils sont parce que c'est là qu'ils sont... Mais si, la dernière fois, celui que j'ai sorti la dernière fois, bon, ben, les ours, on y était... De la farine, si vous voulez, pour donner, pour dire, est-ce que
faire une les cendres,
les cendres quoi, les cendres. Dès que vous les touchez, poum, on a l'impression quand même qu'on n'a pas le droit de les toucher. Parce que dès que vous les touchez, elles disparaissent quoi. Elles... Oh tiens, faut plus y toucher. Quoi. Mais par contre, j'ai retrouvé son masque à gaz, j'ai retrouvé ses chaussures, j'ai retrouvé ses lanières de, j'ai retrouvé ses boîtes de cirage, j'ai retrouvé ses grenades, j'ai retrouvé son obus qui était son fusil. Toute la culasse de son fusil, j'ai retrouvé son casque, j'ai retrouvé son bidon avec le bouchon en liège dessus. Le bidon, il est pratiquement pas rouillé. Mais vous savez, c'est une sacrée émotion quand même. J'ai beau avoir l'habitude, mais on s'habitue jamais à ces choses-là. Jamais. On est aussi perturbé que vous si vous le découvriez, quoi. Moi, je suis à chaque fois perturbé, quoi.
Et la plaque, vous n'avez pas trouvé?
Non, on n'a pas trouvé la plaque. Non, on trouve de temps en temps, on trouve.
Alors si on a la plaque, on retrouve.
On peut retrouver la famille, on peut retrouver. Oui.
Ça s'est arrivé, ça?
Oh oui, papa, il en a sorti. Une fois, je crois qu'il en a sorti 17 au même endroit. Oh ben ici, si vous voulez, c'est... Ici, ça a été terrible, quoi. Pendant ces 10 jours-là, c'est affreux, quoi. C'est affreux, même. Des fois, je préfère même plus y penser. Par moi, je me dis, c'est dingue. Alors les gars, ils n'avaient pas trop bouffé, ils étaient pas bien, ils dormaient jamais. Hein. Quand ils étaient 8 jours au front, ces 8 jours, ils dormaient pratiquement pas, ils étaient avec les rats, avec tout ça. Et puis ils savaient qu'ils allaient laisser leur peau. Hein. Là, il n'y avait pas de chichi, vous savez. Hein. Il n'y avait pas de chichi. Hein.
Une des plus grandes boucheries de l'histoire, là.
Bah, je ne sais pas si... Hiroshima, je crois, pour faire des comparaisons macabres qu'on ne devrait pas faire, 80 000 morts, bombe atomique. Ici, 153 000 morts, 40 ans avant, 30 ans avant. Et on n'en parle pas. Il n'y a aucune bataille comme celle-là. Ici, aucune dans le monde, aucune.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, ceux-là reviendront car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Orimont, le 31 octobre 1914. Chers parents et chère Louise, mes chers, nous avons passé une semaine difficile, car il nous a fallu passer 3 jours et 3 nuits en territoire hostile. Mardi matin à 7 heures, nous sommes partis d'ici, chargés de tout le paquetage, et il n'était pas du tout sûr que nous puissions y revenir. Mais nous sommes revenus vendredi soir. Dans cette lettre, je ne peux vous raconter qu'une toute petite partie de tout ce que j'ai vu, car je ne peux vous décrire tout le malheur, tous les ravages et la famine dont sont victimes les jeunes enfants et les femmes que nous avons rencontrés. Des soldats, il n'y en a presque plus, on ne voit que des vieillards. Ah, mes chers, comme vous avez de la chance d'être là-bas, chez vous, vous ne savez même pas à quel point vous avez de la chance. Vous avez grand tort de vous plaindre et de geindre, car vous n'en avez aucune raison. Vous allez peut-être me dire que tout ce que j'ai vu n'est encore rien par rapport à un champ de bataille jonché de cadavres d'hommes et de chevaux. Oui, c'est vrai, mais j'en ai déjà vu beaucoup trop, et j'ai mon content de misère et de désolation. Toute la récolte est pour partie dehors, pour partie moissonnée, pour partie en gerbe, pour partie éparpillée. C'est bien triste, tous ces beaux champs de blé laissés à l'abandon. Je vous en raconterai tout de même prochainement un peu plus. Ici, on continue de punir des camarades pour soûlerie. La dernière fois que nous avons reçu la solde, il n'était pas un soir où on pouvait se coucher tranquillement. Et c'était bien triste de les voir rentrer tard le soir dans cet état. Bien des choses à vous tous. Ernst.
Le gars, tu leur as crié depuis 14, bien tué, bien zigouillé, continue, tu m'intéresses. Maintenant que t'en as plus besoin pour te planquer derrière, t'as toute une ménagerie de pantins qui se donnent des droits, là. Hein, maintenant qu'ils n'ont plus la chiasse du matin au soir et du soir au matin. Allez hop, 3 enfermes. Pour avoir vidé la caisse d'une boîte à macro, c'est quand même un peu raide. Tu penses à tous ces généraux qui se faisaient buter 80 millisives en 20 minutes.
Tout le monde s'est battu.
Tout le monde? Non, pas tout le monde. Tu es un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. Nous, on y allait au couteau, on y voyait de blanc de l'œil, au frère, et on crevait. Car un poilu qui tiendrait contre un train blindé, tu ferais lâcher à l'idée d'être éventré d'un coup de surin. Tu es un type en foutant la verte à tout le régiment, c'est ça le vrai boulot. Et on se l'est tapé, nous, à peut-être 3000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné, cette putain de guerre, nous, les 3000.
Et les autres?
Les autres, ils l'ont faite.
C'est fini, Conan. Hier, ils l'ont changé, faut s'adapter maintenant.
Ouais, c'est ça, ouais. S'adapter. Demande donc à un kleps de s'adapter à la salade.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
À l'issue de cette invraisemblable boucherie, on comprit quelque chose. Quelqu'un comme Anatole France, qui était loin, bien loin d'être un dangereux bolchevique, même à l'époque, disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. » Et cette phrase, à elle toute seule, dit bien ce que fut cette guerre.
Karl Fritz, caporal de l'armée allemande, il appartenait au 10e bataillon de chasseurs alpins, 2e compagnie. Argonne, le 16 août 1916. Chers parents et chères sœurs, le 2 à Saint-Laurent, nous avons entendu le signal de l'alerte. On est venu nous chercher avec des véhicules et on nous a amenés jusqu'à quelques kilomètres du front de Verdun. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury, devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant. Et cela sans la moindre goutte d'eau à boire, et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur les morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades et pourtant chacun ne priait que pour soi. Le pire, c'est la relève, les allées et venues à travers les feux de barrage continus. Puis nous avons traversé le fort de Douaumont. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Là, il n'y avait que des blessés graves et ça respirait la mort de tous côtés. En plus, nous étions continuellement sous le feu. Nous avions à peu près 40 hommes morts ou blessés. On nous a dit que c'était somme toute assez peu pour une compagnie. Tout le monde était pâle et avait le visage défait. Je ne vais pas vous en raconter davantage sur notre misère. Je pense que ça suffit. Nous étions commandés par un certain adjudant Ouf. On ne l'a pas vu, mais le Seigneur m'est venu en aide. Là-dessus, nous sommes repartis pour Spincourt, où on nous a chargés sur des véhicules à destination de Grand Pont. Puis nous sommes revenus en 2 jours à nos positions devant Chapelle, où nous sommes maintenant un peu mieux installés. Je vais aussi écrire à Auguste. Je vous embrasse de tout cœur et vous recommande à Dieu, votre fils et frère reconnaissant, Karl.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on a voulu ici, durant cette guerre de 14, massacrer un peuple, le peuple? C'est votre idée?
Oui, tout à fait. Regardez, j'ai des cailloux de la plage de Gallipoli, ici, comme symbole.
Ah, des cailloux que vous sortez de votre petit sac.
C'est mes amis australiens qui me l'ont envoyé, parce que pour eux, c'est tout. Et je pense à tous ces Français qui sont morts là-bas tout le temps. Parce que nous aussi, on a envoyé des gens là-bas et qu'on n'en parle pas. On n'est pas très loin de la guerre en dentelle, où les grands regardaient les petits se massacrer pendant quelques heures et on recommençait le jour suivant. C'est toujours un peu comme ça. Pourquoi les Américains sont entrés en guerre? On dit officiellement à cause de ces torpillages, de cette histoire du Lusitania, etc. C'est pas vrai. Les Américains sont entrés en guerre parce que les services secrets américains ont intercepté des messages codés entre l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade du Mexique. L'Allemagne envoyait des armes et de l'argent au Mexique pour que le Mexique attaque le Texas. C'est encore une histoire de
territoire géopolitique.
Les Américains sont venus mourir en France. Les Américains perdent en 10 mois de leur grande guerre plus d'hommes que pendant toute la guerre du Vietnam. 116 000 tués. 116 000 tués.
Australiens, combien?
Les Australiens perdent 60 000 hommes.
Grande-Bretagne?
1 million.
France?
La France?
1 million 3.
Officiellement. Mais on sait très bien qu'il y a des tests dans les années 30, des tests pacifistes qui disent...
Allemagne?
1 million 7.
Russie?
2 millions. Enfin, mais là aussi, c'est très difficile de dire parce que le pays est tellement vaste.
Canada?
Ils perdent en moyenne aussi 60 000 hommes, à peu près.
Total des pertes, Italie.
Il y a 8 000 Sud-Africains aussi. Il y a 300 Maoris.
Venus nous 300 Maoris qui viennent mourir ici, oui.
Mais c'est complètement fou.
c'était affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle. Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier d'Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître Dieu Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il y a d'autres soldats en ville et la nuit montent les civils. Remets du rimet la Tessie Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Comme des soleils révolus.
La France, l'Europe, le monde n'est plus pareil après la guerre de 14-18, c'est fini.
Vous êtes jeune, vous avez
36 ans.
36 ans, vous vous passionnez pour cette histoire. Quelle est votre motivation? Pourquoi?
Parce que j'ai l'impression qu'on va tourner une page et je veux pas que ces gens qui sont morts de l'Isère à la Suisse soit mort pour rien, et je veux pas qu'il meure une deuxième fois. Je me dis, derrière chaque tombe, il y a l'histoire. Il y a une femme, un père, il y a peut-être des enfants, il y a quelque chose. Et tout ça s'est perdu. La valeur de l'être humain, qu'est-ce qu'on en fait de la valeur de l'être humain?
Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre vie.